Bonjour, je vais m'exprimer en français et je vais compliquer le travail des interprètes parce que beaucoup de choses que je comptais dire ont déjà été mentionnées, notamment par Madame Helga Zepp-Larouche. Et donc je vais essayer de faire des coupes dans le texte que j'ai déjà donné aux interprètes. En préambule à ce que je compte vous dire, je voudrais féliciter les responsables de l'Institut Schiller pour avoir organisé cette conférence internationale au moment critique où la menace d'une guerre nucléaire qui constituerait l'anéantissement de l'humanité devient chaque jour plus précise en raison de la concentration au cœur de l'Europe d'armes capables de détruire la planète en quelques secondes. En riposte au renforcement des forces stratégiques américaines au sein de l'OTAN sur le territoire européen, la Russie a dû déployer un arsenal dissuasif équivalent à ses frontières occidentales. Il est grand temps que les stratèges des différents pays, même des pays très éloignés du théâtre européen, appellent les chefs d'État du monde entier à la retenue et à un peu plus de sagesse. C'est l'objet de cette initiative salutaire de Madame Helga Zepp-Larouche que je félicite personnellement. Il se trouve que nous avons appris hier les résultats du référendum britannique qui ont décidé, le peuple britannique a décidé de sortir de l'Union européenne. Cette décision est historique et représente un événement de portée mondiale. Il aura des conséquences sur l'avenir de l'Europe et non pas de l'Union européenne. L'Union européenne est morte avec cette décision britannique car l'élection présidentielle en France va être directement concernée par cette décision britannique. L'élection américaine également, et on a déjà vu que le candidat Donald Trump avait commenté favorablement cette décision des Britanniques. Et enfin, à l'intérieur de l'Europe même, cette décision va entraîner des conséquences énormes, car d'autres pays, d'autres peuples européens vont être tentés d'imposer à leurs dirigeants la même décision que celle que le peuple britannique a imposé à ses dirigeants. Et on sent déjà que les hommes et les femmes politiques de cette Union européenne commencent à se concerter pour essayer de colmater la brèche, mais les plus intelligents savent bien que cette brèche n'est pas colmatable. Il y a une conséquence directe également, c'est le fait que les traités transatlantiques dont l'ambassadeur Freeman a parlé tout à l'heure, à mon avis, sont définitivement tombés dans l'Atlantique et au fond. Et ça manifeste également une émergence des volontés populaires européennes qui vont se révolter après l'exemple britannique contre les appareils technocratiques et antidémocratiques qui gouvernaient leur destinée jusqu'à présent au travers de l'Union européenne. Je voudrais maintenant en venir à mon propos sur les dangers d'une guerre nucléaire en Europe, et j'ai relu des textes d'Héraclite qui m'ont paru, bien que ça date du VIe siècle avant notre époque, je trouve qu'il y a une analogie étonnante entre ce que pensait Héraclite de l'humanité à l'époque. Nietzsche le cite en disant, et il s'agit cette fois-ci d'Héraclite, « Il s'accorde pour croire en effet à la répétition périodique d'une fin du monde et au surgissement toujours renouvelé d'un autre monde qui naîtrait de la combustion universelle après qu'elle a tout détruit. La période au cours de laquelle le monde se précipite au devant de cette combustion universelle et de cette dissolution en feu pur est défini par lui, c'est Nietzsche qui parle d'Héraclite, est défini par lui de façon tout à fait frappante comme un désir et un besoin. Et l'état de complète combustion par le feu comme l'état de satiété. Et plus loin, il ajoute, la satiété engendre l'hybris, c'est-à-dire la surabondance de moyens, la démesure, l'orgueil incommensurable qui définissent l'hybris amène à des crimes contre l'humanité qui a pourtant besoin de prudence et de juste mesure. Je raccourcis mon propos. Nous sommes dans un monde qui a accumulé de gigantesques moyens de destruction avec l'apparition dans les arsenaux de l'arme nucléaire, arme fatale qui, comme le faisait remarquer le général de Gaulle, n'est pas un simple progrès dans les techniques d'armement, mais un saut technologique bouleversant les règles traditionnelles de l'art de la guerre, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont inventé une arme qu'on ne peut pas employer. Arme de dissuasion exclusivement, donc, assurance pour tout État la possédant, qu'aucune puissance hostile ne pourrait prendre le risque d'être détruite en même temps qu'elle l'attaquerait. Mais impossible raisonnablement à employer, d'où cette appellation d'arme de non-emploi. Le grand anthropologue et philosophe français, récemment disparu, il y a 3 ans je crois maintenant, René Girard, créateur de la théorie mimétique, qui a étudié les civilisations préhistoriques jusqu'à les civilisations historiques, écrit dans « La voie méconnue du réel » en se référant à Nietzsche. La véritable vengeance, au sens du ressentiment nietzschéen, est de retour parmi nous sous la forme de l'arme absolue du nucléaire, qui réduit notre planète à la taille d'un village primitif, terrifié une fois de plus par l'éventualité d'une guerre à mort. La véritable vengeance est si terrifiante que ses partisans les plus acharnés n'osent la déchaîner parce qu'ils savent parfaitement que toutes les atrocités qu'ils peuvent infliger à leurs ennemis, ceux-ci peuvent aussi les leur infliger. René Girard n'était pas un stratège, mais je trouve que dans cette phrase, il définit parfaitement ce qu'est la dissuasion nucléaire. Et je me demande quelle doctrine aurait établi Héraclite s'il avait connu la possibilité pour l'homme de déclencher la fusion nucléaire, lui qui parlait de combustion universelle. Un des plus grands stratèges français, le général Pierre-Marie Gallois, qui m'avait fait l'honneur de m'introduire dans son cercle de réflexion, m'avait raconté ses échanges avec le général de Gaulle sur l'arme nucléaire. Et comment peu de monde, même parmi les spécialistes, avait compris le concept, continuant à raisonner en termes de coercition militaire quand il s'agissait désormais de dissuader quiconque de nous attaquer. Je le cite. Aussi, soudainement plongé dans l'ère de l'atome, l'opinion y a-t-elle raisonné ainsi qu'elle aurait pu rationnellement continuer de le faire dans le cycle classique? Elle pensait coercition alors qu'il s'agissait de dissuasion. Elle comparait numériquement les forces en présence alors qu'il eût fallu qu'elle évaluât les dommages dont aurait souffert le plus fort, quelle que fût sa puissance, s'il s'en était pris à l'existence du plus faible. Je reviendrai un peu plus loin sur cette notion de la dissuasion que les stratèges américains sont en train d'essayer de détruire en saturant le monde de leur puissance nucléaire et en tout cas en y saturant l'Europe. Aujourd'hui, nous assistons à un renforcement inouï de l'arsenal militaire classique et nucléaire de l'OTAN en Europe, tout particulièrement aux frontières de la Russie, en Pologne et dans les États baltes, qui vient s'ajouter à des forces déjà positionnées en Roumanie, en Italie, en Allemagne, en Pologne. Je ne m'étendrai pas sur le détail de ces forces déployées, car il y a déjà été fait allusion, mais le système Aegis américain est un système global qui couvre l'ensemble de la planète et qui vise à instaurer la supériorité militaire totale et cette saturation nucléaire dont je viens de parler. Je vais donc passer sur ce qu'est exactement le système Aegis, mais je voudrais rappeler quand même que les États-Unis, avec un budget incomparable de plus de 700 milliards de dollars, quand on y inclut toutes les sommes destinées à des organisations de défense ou de renseignement, tout ce système militaire américain est dirigé désormais contre la Chine et la Russie, accusées de volonté hégémonique, l'une en Europe, l'autre en Asie, inversant ainsi les rôles. Cette stratégie associe ses alliés, notamment l'Union européenne, dont la France reste un turiféraire, je pense que ça risque de changer, alors que tout semble indiquer qu'elle est vouée à l'implosion, comme je l'ai dit en préambule, aidée en cela par nos amis britanniques. La Chine, au prix d'efforts laborieux et industrieux, a réalisé d'énormes progrès économiques qui ont éradiqué la famine et le sous-développement dans la majorité de sa population et accumulé des réserves financières considérables, ceci tout en conservant le centralisme du communisme collectiviste qui lui assure l'avantage énorme de garder la direction centrale de l'ouverture au commerce mondial de cette immense population et le contrôle des importantes réformes d'adaptation à notre époque, à l'inverse de ce qu'a connu l'Union soviétique, rapidement dissoute par la perestroïka de Gorbatchev, pourtant animée de bonnes intentions, par perte du contrôle du processus réformiste. Elle est regardée par les États-Unis comme un rival qu'il faut détruire avant qu'il ne devienne trop puissant. Il s'agit donc de lui refuser le droit de défendre ses intérêts vitaux, particulièrement dans les mers qui l'environnent, en créant des systèmes d'alliances hostiles avec les pays qui apprécient la protection américaine. Mais il se trouve de plus en plus que la fine diplomatie chinoise a su convaincre beaucoup d'États de la région qu'elle n'était pas impériale et qu'elle souhaitait au contraire avancer dans la coopération internationale pour développer en commun des projets économiques profitables. Alors je vais aussi passer, je le dis aux interprètes, puisque les initiatives de la Chine ont déjà été largement décrites, à la fois par l'ambassadeur Freeman et par Madame Larouche. La Russie, par la diplomatie américaine, la présentation de la Russie par la diplomatie américaine comme une puissance impériale qui se prépare à envahir l'Europe est une telle contre-vérité qu'on se demande comment cette idée peut être acceptée par les États européens, à moins qu'ils aient une raison quelconque de se lier aux États-Unis pour éviter de dépenser de l'argent dans leur propre défense. Il semble d'ailleurs que cette contre-vérité soit en train de s'effriter à Bruxelles, qui, sous les pressions des peuples et des États, reconnaît que les sanctions sont peut-être plus nocives pour les économies des États membres que pour la Russie elle-même, qui a développé des répliques vers l'Asie et à l'intérieur de son immense territoire. En France, le 8 juin, le Sénat, suivant en cela l'Assemblée nationale, fin avril, a voté une proposition de lever progressivement ces sanctions. Et on a vu que M. Juncker, le président de l'Union européenne, s'est rendu au Forum économique de Saint-Pétersbourg, ne pouvant plus résister aux pressions venant des profondeurs de la vraie Europe, qui comprend bien que son avenir est dans une entente et une coopération avec la Russie. Ce qui ne manque pas d'inquiéter Washington, qui avait conçu l'Europe de l'Ouest depuis 1945 comme un glacis protecteur contre la Russie soviétique. Ça a déjà été expliqué tout à l'heure. À partir de 1989, avec sa victoire sur le communisme soviétique et l'effondrement de l'URSS, une sorte d'hybris, de démesure, l'a conduite à disloquer la nouvelle Russie en achetant politiciens et oligarques et à soutenir le terrorisme tchétchène par différents relais. Poutine, enfin stratège et connaisseur des rapports de force, a voulu mettre un terme à la décomposition de son pays et s'entendre avec la première puissance mondiale, faisant des concessions que sa faiblesse lui recommandait de faire, mais lâchant de moins en moins sur les intérêts vitaux de la Russie lorsqu'ils étaient menacés de plus en plus par l'hystérie impériale américaine, qui, inversant les rôles, a fait de l'agressé l'agresseur. Car enfin, quel stratège sérieux est capable d'imaginer les divisions russes déferlant sur l'Europe de l'Est pour s'emparer des anciens satellites de l'Union soviétique? Dans quel but? À quelle fin? Pour s'emparer de leurs richesses minières ou industrielles ou les convertir à l'orthodoxie? Tous les experts savent qu'en août 2008, le coup d'arrêt en Géorgie avait pour but de montrer les limites à ne pas dépasser dans l'expansion incessante et contraire aux promesses de l'OTAN vers l'Est après les provocations du gouvernement de Tbilissi, dirigé en fait par le département d'État. En Crimée, tout le monde sait qu'il s'agit d'un coup d'État et George Friedman, le stratège américain, l'a même déclaré officiellement un coup d'État organisé par les États-Unis d'Amérique pour renverser le pouvoir de Kiev. Présent à l'époque à Kiev. La Russie renaissante de Poutine a donc cherché longtemps à s'entendre avec les États-Unis et avec ses voisins européens, mais la volonté hégémonique d'une partie de l'oligarchie de Washington ne conçoit pas que le monde puisse être multipolaire et que l'Amérique soit amenée à partager avec les nouvelles puissances la direction des projets de la planète. Il semble que le candidat Donald Trump veuille casser ce système à courte vue. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais moi j'analyse les discours de Trump et je souhaite qu'il y parvienne à casser ce système pour le bien du monde et celui des Américains, puisqu'il propose de mettre un terme à l'interventionnisme militaire, de coopérer avec la Russie et de parler avec la Chine pour se concentrer sur le développement de l'économie nationale en rapatriant les fonds de pension investis dans le mondialisme pour plus de profits, afin de les injecter dans l'économie américaine et d'y créer des emplois. C'est pourquoi il est d'ailleurs présenté par tous les médias occidentaux comme un charlatan. Or, les médias occidentaux, on sait qu'ils appartiennent à cette finance internationale, et donc il est présenté de façon caricaturale, et je pense que c'est un phénomène intéressant de savoir, c'est que quand les médias occidentaux défendent une thèse, on peut être certain que c'est la thèse de la finance. Donc il est facile, Poutine est présenté de la même façon par tous ces médias occidentaux. C'est donc la finance internationale qui fait sa propagande. Je rappelle qu'un homme de bon sens américain qui était aux affaires il n'y a pas très longtemps, Chuck Hagel, a déclaré récemment que ce renforcement de l'OTAN face à la Russie était une erreur et contre-productif. C'est pourquoi j'ai parlé d'hybris ou d'hystérie des États-Unis, car en réalité il ne semble pas réalisé que cette escalade militaire contre la Russie provoque une extrême inquiétude dans l'ensemble du monde, car elle se fait avec des moyens nucléaires. Il est évident que la Russie ne se laissera pas écraser sans réagir à une attaque de tel niveau, et nous serions alors non pas à la Troisième Guerre mondiale, mais à la fin de l'humanité. Pour cette raison, le concept stratégique américain avancé par certains experts, consistant à saturer l'Europe d'engins nucléaires américains pour obliger les Russes à une première frappe sur le continent qui les détruirait automatiquement par représailles, est une aberration, sans doute aussi de la pure propagande, pour faire croire à une supériorité nucléaire américaine totalement illusoire, mais qui fait peu de cas du continent européen et montre l'absence de respect des États-Unis pour les États européens, ses alliés, puisque ce concept consiste à dire que la Russie déclencherait la première frappe sur l'Europe, donc l'Europe serait détruite, mais les États-Unis seraient à ce moment-là déclencheraient leur frappe sur la Russie et eux ne seraient pas atteints. Il faut bien comprendre que ce n'est que de la propagande et que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il est temps que celle qui est encore la première puissance mondiale, en tout cas militaire, par ses arsenaux et l'importance de ses bases réparties sur toute la planète, retrouve la mesure et cesse de refuser de voir le monde qui change, les équilibres qui se modifient, les émergents qui s'affirment, et se décide à entrer dans un monde de coopération pour le bien de tous, les plus puissants et les plus riches, aidant les plus pauvres, les progrès de la science servant l'ensemble de l'humanité. Le drame de notre époque est que la demesure américaine et son aveuglement sont issus d'une conception messianique qui a porté au pouvoir des politiques convaincus depuis l'écroulement du communisme en URSS, que le bien suprême, le libéralisme, l'ayant emporté sur le mal absolu, le collectivisme totalitaire, la mission divine de diriger le monde incombait désormais aux États-Unis. À ceci s'ajoute l'intérêt des puissances d'argent, organisées en réseau d'influence à Washington, dont les actifs couvrent une bonne partie de la planète et possèdent les médias et leurs véhicules de propagande, réseaux qui sont les vrais décideurs de la politique américaine, au point que le gouvernement se voit souvent incapable d'appliquer ses décisions lorsque celles-ci ne vont pas dans le sens voulu par eux. On voit à cet égard que si la présidence Obama est parvenue à imposer contre eux quelques réformes, comme l'assurance médicale à l'intérieur et l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, ils ne renoncent pas. Le président américain, en fin de mandat, donne l'impression de céder désormais à leurs exigences, notamment en Syrie, où malgré des annonces d'entente avec la Russie pour mettre un terme au carnage inique qui s'y développe, les actions sur le terrain continuent d'alimenter les combats. On a vu la direction américaine perplexe lors de l'intervention russe en septembre 2015, qui obligeait les acteurs à jeter les masques pour choisir ou non le camp de la lutte contre le terrorisme. Continuer la politique de changement de régime qui ne se soumettent pas à sa politique, au grand bénéfice d'Israël, qui en profite pour accroître sa négation des droits des Palestiniens et son appropriation de territoires leur appartenant au mépris total des règles de l'ONU. Je vais passer au nouveau pacte de Varsovie qui est en train de se créer. Un sommet de l'OTAN se tiendra à Varsovie début juillet avec de grandes manœuvres sous l'égide américaine appelées Anaconda, auxquelles participent 24 pays européens, dont la Macédoine. Vous voyez l'intérêt de la Macédoine à participer à ces grandes manœuvres, et l'Albanie. Et bien sûr les pays baltes, la Turquie, le Canada, la Finlande. Sans la France, heureusement. Ceci est symbolique puisque le pacte de Varsovie a cessé d'exister avec l'effondrement de l'URSS et, espérait-on, la fin de la guerre froide. Un tel sommet à un tel endroit résonne comme un défi inutile et dangereux, surtout quand on connaît le renforcement en armes nucléaires de l'OTAN en Europe. C'est pourquoi, en tant que patriote français, je souhaite que la France se retire de l'OTAN et ne participe pas à ce sommet de Varsovie qui a pour but de provoquer la Russie. On me qualifie sur divers sites, dans des articles ou dans des ouvrages, d'être pro-russe ou pro-chinois ou pro-iranien ou anti-américain primaire. Je suis d'abord simplement pro-français et convaincu que l'intérêt de mon pays est de voir le monde tel qu'il est, de se libérer de toute idéologie de bloc et de respecter la souveraineté des États. J'aimerais que la France retrouve la sienne de souveraineté pour reprendre la politique d'indépendance qui a été sa tradition depuis le général de Gaulle, ce qui n'exclut pas de conclure des accords avec nos voisins, bien entendu. Notre époque marque le retour au sentiment national en Europe. Les peuples, sentant qu'à moins de disparaître dans un magma informe, ils doivent défendre leurs richesses patrimoniales et s'enrichir des échanges avec les autres. Une Europe des nations est appelée à remplacer une Union européenne technocratique qui se montre incapable de faire face aux grands défis de notre époque. Ces turiféraires sincères commencent à comprendre qu'il ne suffit pas de sauter sur son siège comme un cabri en criant « l'Europe, l'Europe, l'Europe » pour la construire et même que ça ne fait pas avancer les choses. En conclusion, je voudrais dire qu'il est temps que l'hybris américain fasse place à un esprit de coopération que le monde entier accueillerait avec soulagement. Et que cette coopération entre tous les États se fasse sur des bases de respect mutuel et d'intérêts partagés. Dans un tel climat apaisé entre les nations du monde, le désarmement nucléaire progressif mais total devrait être à l'ordre du jour, les puissances s'entendant pour y procéder simultanément. La France, qui a montré autrefois sa grandeur dans la défense des valeurs universelles, pourrait apporter sa contribution à ce processus quand les autres nations détentrices auront renoncé elles-mêmes à leurs menaces. Mais la dissuasion qui a empêché jusqu'ici une nouvelle guerre mondiale, fatale, devra bien continuer à s'exercer d'une manière ou d'une autre pour garantir la paix planétaire. Pour conclure, je citerai un grand philosophe français qui était également un grand homme d'État, le général de Gaulle, qui s'adressant aux étudiants de l'Université de Mexico en 1964, avait dit cette phrase que je trouve exceptionnelle. Je vais la lire lentement pour que les traducteurs aient le temps de la bien traduire. C'est ma conclusion. En effet, par-dessus les distances qui se rétrécissent, les idéologies qui s'atténuent, les politiques qui s'essoufflent, et à moins que l'humanité s'anéantisse elle-même un jour dans de monstrueuses destructions, le fait qui dominera le futur, c'est l'unité de notre univers. Une cause, celle de l'homme. Une nécessité, celle du progrès mondial. Et, par conséquent, de l'aide à tous les pays qui le souhaitent pour leur développement. Un devoir, celui de la paix, sont, pour notre espèce, les conditions mêmes de sa vie. Comme vous le voyez, vision humaniste qui s'inscrit à l'évidence dans la recommandation de saint Matthieu de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Je vous remercie.